Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts.
Au-delà de faire des bons produits et de créer une belle marque, comment aussi on arrive à changer les codes de marché et finalement retrouver du bon sens sur un marché qu'on a perdu depuis longtemps.
Aujourd'hui, je cause avec Cyril, fondateur des Petits Bidons, une marque de lessive engagée qui a su très vite faire parler d'elle. Cyril a un parcours en grande conso chez des marques comme L'Oréal et Danone, et c'est après une prise de conscience personnelle qu'il se lance dans la création des Petits Bidons.
En fait, on n'est pas là pour faire un fond de vitrine, on est là pour intéresser les gens. Donc la clé du truc, c'est de se dire déjà qu'est-ce qu'on a envie de raconter qui est intéressant.
Entre sensibilisation et divertissement, l'équipe a déjà réussi à moderniser ce sujet pourtant pas hyper sexy de la lessive, en utilisant tous les codes d'aujourd'hui et notamment les réseaux sociaux. Elle compte plus de 120 000 abonnés cumulés avec un fort taux d'engagement, ce qui est une vraie valeur ajoutée pour le développement de l'activité. Parce qu'en effet, l'entreprise a décidé en 2022 d'accepter les discussions avec la grande distribution pour faire entrer son produit dans les rayons des supermarchés. Le but, être là où les consommateurs sont les plus nombreux et transformer profondément et durablement cette industrie. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange. Salut Cyril, bienvenue sur Business Positif.
Bonjour Mélodie.
Bah écoute, déjà, est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse ou en tout cas ton déclic? Pourquoi tu es passé de L'Oréal, Danone et ce genre de boîte à la création d'une entreprise comme les Petits Bidons?
Vaste question. En fait, oui, effectivement, avant, j'ai travaillé pendant 7 ans dans des grands groupes, donc L'Oréal et Danone, ce qui m'a permis d'apprendre plein de trucs, en fait, sur le métier à la fois de développement produit, de com, de vente, etc. Et puis, je me suis retrouvé, après 7 ans de vie professionnelle, à me dire, en fait, OK, je sais faire des trucs, mais les décisions qui sont prises sont pas forcément dans le sens de mes valeurs et de ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai décidé d'arrêter et je me suis retrouvé avec beaucoup plus de temps. Et je me suis dit, je vais faire dans ma vie un peu tout ce que j'avais pas eu le temps de faire avant. Donc, c'est passé par plein de trucs différents. J'ai repris du sport, machin. Et puis, je me suis aussi dit, je vais me lancer dans une démarche un peu plus écologique dans ma façon de vivre. Et dans toutes les démarches que j'ai entreprises, il y avait faire sa lessive maison. Donc, j'ai commencé un peu comme ça. Je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients. J'avais testé plein de formules. J'avais trouvé des formules plutôt efficaces, etc. Et le seul truc, c'est que je savais que dans mon emploi du temps d'avant et dans l'envie, j'allais pas forcément la réaliser tous les mois. Et donc, oui. Ça a commencé, si tu veux, à mettre une petite graine dans cet univers de la lessive et de la détermance. Et j'ai commencé du coup à me dire, il y a quoi dans les lessives que j'avais l'habitude d'utiliser avant? Et là, si tu veux, ça a été un peu un petit choc. Et finalement, c'est ça qui a été à la genèse du lancement de la marque.
Comment t'es passé de cette idée de ou cette prise de conscience du sujet lessive à je vais monter une boîte là-dessus quoi?
Si tu veux, ça s'est fait un peu petit à petit. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que la réglementation, elle obligeait pas les fabricants à donner les listes d'ingrédients des lessives directement sur les produits, ce que j'ai trouvé assez dingue parce que en fait. Dans l'alimentaire et la cosmétique, qui étaient les précédents secteurs sur lesquels j'avais travaillé, t'as cette transparence-là. Alors, faut être un peu scientifique, mais t'arrives quand même à avoir des applications qui font le job, hein. Tu vois, t'as Yuka qui peut faire le tri, par exemple, ou d'autres. Et là, tu peux pas avoir accès aux informations, donc tu sais pas ce que tu consommes. Et en fait, quand tu trouves les listes d'ingrédients, tu comprends pourquoi elles étaient cachées, en fait, puisque tu retrouves, même dans les lessives, dites écologiques, des dérivés de pétrole, des dérivés d'huile de palme, des substances perturbateurs endocriniens, des azures optiques, enfin bref, des trucs qui sont à la fois polluants pour la planète, mais aussi qui sont susceptibles d'être dangereux pour ta santé, quoi. Et donc, je me suis dit, c'est quand même dingue, ça c'était en 2017, qu'en France, on a quand même des bassins de savonnerie et de savoir-faire sur le savon qui sont quand même historiques et importants. Je trouve ça dingue, en fait, qu'on n'ait pas une lessive qui soit à la fois prête à l'emploi, à la fois efficace, pratique et naturelle. Et du coup, si tu veux, je me suis dit, essayons de répondre déjà à moi, mon besoin de consommateur seul, tu vois, en essayant d'avancer là-dessus et après me dire bah en fait aussi le marketing autour des lessives il a jamais vraiment évolué en 40 ans, tu vois, c'est un peu les lessiviers, c'est quand même un peu les inventeurs de la pub, quoi, tu vois, on a tous ces souvenirs de du plus blanc que blanc, etc., et de ces pubs incroyablement sexistes avec des ménagères, enfin c'est juste hallucinant, et finalement ça a assez peu bougé. Je me suis dit bah en fait il y a peut-être l'opportunité de créer quelque chose qui pourrait donner envie à d'autres gens d'avoir une lessive sur une communication un peu plus moderne, non genrée, et qui soit aussi, bah, du coup, beaucoup plus propre que ce qui existe sur le marché. Et donc, en fait, c'est un peu comme ça, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, bah, on a cherché des laboratoires de R&D basés en France, dont un qui a été assez fou pour me dire, bah, OK, moi, je crois au projet. Et en fait, je trouve qu'effectivement, ça a du sens et ça rentre un peu dans ce que lui aussi avait envie de faire. Et puis, du coup, on a mis un peu plus quasiment un an à faire. On a testé plein de formules différentes. Je pense qu'il y en avait plus d'une cinquantaine au final. Et du coup, on a atterri sur la toute première formule de la lessive, les petits bidons.
Ok, génial. Du coup, je pense qu'on voit bien la mission et l'activité de cette entreprise. On voit bien aussi, enfin d'ailleurs non, tu vas me dire, est-ce que ton ambition là, c'était faire une petite marque de lessive un peu alternative pour ceux que ça intéresse, ou est-ce que à ce moment-là, tu as une ambition de, attends, moi je veux transformer ce marché et que ma lessive dans 20 ans, ce soit la numéro 1, quoi.
Bah, si on se remet en 2017, si tu veux, ça partait d'un besoin perso. Donc, je me suis dit, bah, en fait, essayons de créer déjà un truc propre et puis après, on verra jusqu'où ça va. Et en fait, on a commencé par faire une campagne de crowdfunding sur Tudigo, justement, on parlait d'Alice, sur Tudigo. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls parce que la campagne a super bien fonctionné. Ça nous a permis de financer la première production. Et en fait, à partir de là, tout est allé hyper vite. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, au-delà de faire des bons produits, on peut aller aussi bien plus loin en termes de mission, qui est un peu ce qui nous anime aussi dans l'équipe maintenant, les petits bidons, c'est de se dire bah, comment en fait, au-delà de faire des bons produits et de créer une belle marque, comment aussi on arrive à changer les codes de marché pour amener plus de transparence, plus de naturel, et finalement retrouver bah, du bon sens sur un marché qui en a perdu depuis longtemps, quoi.
Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans l'écosystème de l'impact et qui est génial, c'est non seulement le produit, un meilleur produit, mais aussi justement changer les codes, changer les mentalités. Donc
trop ouais, chouette. Et puis tu vois, moi j'ai une petite anecdote là-dessus qui est intéressante. C'est en fait, moi je trouve ça vraiment un truc qui me scandalise en fait, qui est pas les listes d'ingrédients sur les produits, parce qu'en fait, on sait que c'est responsable d'allergies. Tu vois, souvent les lessives, notamment, elles sont incriminées par les dermatologues. Sur la naissance d'allergies, et je trouve ça dingue que le consommateur ait pas accès. Et en fait, l'année dernière notamment, on a mené des grandes actions de lobbying auprès des pouvoirs publics, tu vois, pour justement sensibiliser et essayer de trouver des véhicules législatifs pour qu'en fait il y ait une obligation d'affichage complet des listes d'ingrédients, parce que aujourd'hui on est les seuls à le faire sur nos produits, et du coup on a envie que, bah, si tu veux, ça transforme durablement le marché, quoi. Donc on commence à voir les prémices. La marque, elle va bien au-delà d'une simple marque, tu vois, business. On est vraiment aussi animé par cette profonde volonté de changer durablement les choses.
Bah, c'est tout notre sujet aujourd'hui, comment on allie tout ça, est hyper intéressant, parce que du coup ce qu'on s'est dit, c'est effectivement qu'on allait parler à la fois de cette partie acquisition, à la fois de cette partie sensibilisation, mais le lobbying fait aussi partie quelque part, donc ça serait intéressant peut-être de dire un mot sur comment vous y êtes pris. Est-ce que tu as quelqu'un en interne qui s'occupe de ça, est-ce que vous avez pris quelqu'un d'externe, est-ce que voilà, ça peut être chouette de savoir comment vous essayez de faire bouger les choses aussi à l'échelle publique, quoi.
Carrément. Bah, si tu veux, en fait, rapidement, en fait, on a vu que il y avait potentiellement des fenêtres de tir, en fait, pour faire évoluer la réglementation, qui est une réglementation européenne. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais du coup, on a fait appel à un cabinet qui nous a accompagnés, parce qu'on n'avait pas forcément le réseau. C'est moi qui ai pris, du coup, ce sujet-là dans l'équipe pour justement, bah, aller faire prendre conscience à des députés, à des sénateurs, en fait, que, bah, il y avait ce flou juridique autour de la lessive et de la détergence au sens large, et de commencer, en fait, si tu veux, à, bah, planter une graine pour la faire germer plus tard sur un moment où il y aura une possibilité de faire bouger la réglementation.
Et c'est cette agence qui vous a aidé, par exemple, à viser certains députés ou sénateurs qui pouvaient déjà être un peu ouverts sur ces sujets-là et organiser des rendez-vous rencontres ?
Exactement, ouais, bah, on a eu la chance, tu vois, on allait plusieurs fois au Sénat, on est allé au ministère de l'économie, on a eu pas mal échangé avec le ministère de la transition écologique. Enfin, il y a eu vraiment, tu vois, pas mal de prises de contact pour justement, bah, commencer. Là, on avait mis un peu en stand-by par rapport aux élections présidentielles et les dernières. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de se dire, bah, là, voilà, on va voir comment on reprend les choses. Parce que, bah, c'est aussi des investissements de temps et d'argent, en fait, d'aller faire ça. il faut qu'on voit, on reste quand même une petite marque, donc on essaie de continuer à le faire de façon un peu plus forte pour les prochains mois.
Ok, génial. Et c'est là où on voit que le terme responsabilité sociale ou sociétale des entreprises prend tout son sens aussi, quoi.
Bah ouais, parce qu'en fait, enfin pour moi, aujourd'hui, une marque, et en tout cas dans la vision qu'on en a, son rôle, c'est pas seulement de faire du pure business, en fait. Alors, notamment quand tu es sur une marque comme ça qui est en avance en termes de transparence, bah son objectif aussi, c'est de faire avancer le marché dans les mêmes clous, si tu veux. Et ce qui nous rassure, et ce qui nous rend fiers aussi dans l'aventure Les Petits Bidons, c'est qu'en fait, on commence à voir sur des marques concurrentes ou des choses comme ça, des revendications qui n'existaient pas avant qu'on se lance et qui commencent à arriver sur les emballages de nos concurrents. Et du coup, bah, en fait, on est plutôt content. C'est qu'on arrive petit à petit à faire bouger les lignes, quoi.
Et d'ailleurs, avant de rentrer dans notre sujet acquisition, par lequel on va commencer, est-ce que vous parlez avec vos concurrents, justement, qui n'ont pas cette approche, les concurrents classiques? Est-ce qu'ils vous
Non.
regardent de loin? Est-ce que vous
Ouais,
arrivez
je
un
pense.
peu...
Ils nous regardent de loin, on sait qu'ils nous regardent, et du coup, on en a la preuve, là, tu vois, dans les choses qui se passent petit à petit sur le marché.
Ouais.
Mais non, non, on est plutôt, en fait, si tu veux, je pense qu'on est plutôt vus comme des ovnis qui sont surveillés pour voir, en fait, un peu comment ça avance, quoi.
Ok. Je vois très bien, ce qui est souvent le cas au final. Eh ben, écoute, hyper intéressant ce début de discussion. Ben, je veux bien qu'on continue sur cette fameuse histoire de l'acquisition chez les Petits Bidons. Alors, acquisition, c'est un mot hyper vaste, évidemment, en marketing. L'idée, c'est plus de comprendre dans un premier temps comment vous avez fait pour acquérir vos premiers clients et pour vous faire connaître, c'est quoi les canaux un peu que vous avez choisis.
Ouais.
Ça peut être en digital, ça peut être en offline aussi.
Alors c'était essentiellement du digital, ouais.
Ouais.
Nous, en fait, bah, on a commencé, on avait vraiment pas d'argent. En fait, l'investissement qu'on a fait, c'était surtout pour lancer les productions. Donc en fait, l'acquisition, elle s'est faite bah, d'abord par la campagne de crowdfunding, en fait, parce que ça nous a permis de recruter les tout premiers ambassadeurs de la marque et de faire commencer finalement le bouche à l'oreille autour de cette nouvelle marque. Et puis après, en fait, on a pris le pari aussi d'arriver sur les réseaux sociaux et d'aller parler directement aux consommateurs. On a privilégié au démarrage Instagram, Facebook et LinkedIn qui restent nos principaux canaux de communication. Et du coup, l'objectif, c'est de faire grossir à cette époque-là en organique bah, la communauté en apportant bah, à la fois des informations sur la marque, mais pas seulement, parce qu'en fait, on essaye de pas être trop nombriliste. Et c'est surtout en fait de faire de la pédagogie justement sur bah, toutes les choses qu'on découvrait au fur et à mesure sur ce marché-là qui nous choquait, pour informer le consommateur. Et un de nos leitmotifs, c'est de se dire comment on arrive à faire beaucoup de pédagogie et d'information sur les sujets des détergents, mais même au sens très large, autour de l'écologie, de l'impact, de l'engagement, pour qu'on soit aussi bah, finalement presque hybride entre un compte de marque et un compte presque média, quoi.
Et du coup, vous avez senti de l'engagement. Est-ce que tu t'aurais des clés, des astuces, des choses que tu as vues qui ont particulièrement marché, par exemple sur le compte Instagram? Vous avez 60 000, je crois, personnes qui vous suivent.
Mais en tout, on est à peu près de 120 000 personnes qui nous suivent sur les différents réseaux. Et en fait, bah, ce qui fonctionne, en fait, c'est que tu t'adresses vraiment, soit tu mets en avant bah, finalement des informations un peu frappantes et percutantes, tu vois, où tu viens apporter de l'information au consommateur dont il n'avait pas conscience. Et ce qui est bien, c'est que, bah, en fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, nous, à la base, on est des consos. Donc, en fait, on n'avait pas à l'époque, tu vois, toute la connaissance de ce marché-là. Et en fait, bah, tous les trucs qui nous choquent, finalement, ça choquait aussi toute la communauté qui était en train de se construire. Donc, ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose aussi qui fonctionne bien, c'est bah, finalement toutes les astuces du quotidien pour essayer bah, petit à petit d'aller vers un univers un peu plus engagé et écologique sans que ce soit culpabilisant. Parce que ça, c'est aussi un de nos gros axes de communication. C'est moi, je suis intimement convaincu qu'en fait, tu peux pas faire des énormes switches à la majorité des gens, tu vois, sur la façon de consommer, etc. Et en fait, on est vraiment dans l'accompagnement des gens qui ont envie, qui savent pas trop par quel bout prendre les choses. Enfin, tu vois, on est vraiment encourageant sur la partie, bah, sur les petits pas, en fait. Tu vois, les gens qui ont envie de s'engager. De leur dire bah commence par ça et en fait on ira petit à petit vers du zéro déchet, du vrac, etc. et des choses plus engagées, mais commence déjà par mettre le doigt dans l'engrenage et tu verras en fait c'est pas si compliqué et on va pouvoir t'amener vers un chemin plus écolo.
Et puis, enfin, si on reste un peu sur Insta aussi, mine de rien, vous avez quand même une ligne qui est assez moderne. Vous utilisez tous les codes d'Insta aujourd'hui. Tu vois, il y a quand même pas mal de marques qui sont un peu à la traîne, mine de rien, parce que ça bouge vite. Comment vous débrouillez? Tu as une équipe en interne qui fait ça. Tu as le dernier poste, d'ailleurs, là, aujourd'hui, c'est une photo de toi, donc tu n'hésites pas à te mettre en avant aussi des fois.
Ça m'arrive. Ouais, on fait des petits récaps sur les actus environnementales à chaque fois, et du coup, C'est moi qui prend cette partie-là. Mais en fait, oui, on a une équipe. Aujourd'hui, on est 10 dans l'équipe. Ouais. Et il y a 3 personnes qui sont vraiment sur la partie communication sur les différents réseaux et qui, en fait, ont en charge de créer la ligne éditoriale, faire les recherches de contenu, les mettre en forme pour que ce soit le plus digeste possible pour la communauté et qui, du coup, travaillent aussi après toute la partie influence, partenariat, etc.
Donc, vous travaillez aussi avec des influenceurs et c'est vraiment en interne que vous arrivez à faire tout ça. Tu as vraiment décidé d'internaliser cette partie-là, quoi.
Ouais, pour moi, c'est clé, en fait, parce que tu es quand même... En fait, c'est ce qui fait aussi l'ADN de la marque. C'est qu'en fait, on prend la parole, on connaît les sujets, on sait ce qui fonctionne et ne fonctionne pas bien. On sait les sujets qui intéressent parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a découverts et qui nous ont surpris ou qui nous ont interpellés ou on a trouvé que c'était des bonnes initiatives. Et finalement, on se sert aussi des sensibilités de chacun dans l'équipe pour justement faire émerger, tu vois, du nouveau contenu au fur et à mesure de ce qu'on crée et de ce qu'on fait grandir sur les réseaux.
Et comment vous faites pour développer le compte aujourd'hui? Vous publiez évidemment. Est-ce que vous avez aussi, parce qu'on parlait d'organique, est-ce que vous avez aussi fait un peu de SIA? Est-ce que vous avez sponsorisé pour pouvoir réussir à avoir cette communauté?
Ouais, on le fait, mais alors pas de façon trop régulière. On le fait sur des posts où on trouve que c'est pertinent, tu vois, d'aller vraiment toucher l'intégralité de notre base de communauté. Ouais. Parce qu'on trouve que soit le sujet est assez fort pour que ça puisse intéresser beaucoup de monde, ou parfois aussi sur des lancements de produits où du coup on va aller mettre un peu de sponsor. Mais il y a beaucoup de choses qui sont réalisées en organique, en fait, et on a des taux d'engagement qui sont vraiment exceptionnels sur les réseaux. Et ça nous rassure aussi sur le fait que le contenu, tu vois, en organique fonctionne encore très bien, quoi.
Ouais. Oui, vous avez vraiment réussi. Justement, on peut faire un petit focus là-dessus. Tu penses que ça, le fait que votre contenu organique il fonctionne bien, donc comme tu disais, c'est parce qu'en fait, il y a une identification des gens sur votre engagement, il vient toucher tout le monde. On est sur un produit de grande conso. En plus, le sujet n'avait pas forcément été défriché avant vous. Donc, vous venez aussi apporter de la lumière sur quelque chose qui était opaque et où il n'y avait pas de conscience dessus jusque-là. Est-ce que tu peux me dire s'il y a des clés que tu avais en amont du fait de venir du monde de la grande conso pour justement réussir à faire connaître les petits bidons comme petite marque mais qui fait du bruit quand même sur son secteur, quoi.
Écoute, moi, le parcours que j'ai eu avant, il m'a plutôt aidé pour la partie de développement produit et la partie création d'entreprise sur toutes les différentes fonctions, tu vois, qui sont nécessaires au lancement d'une boîte. Donc, c'est surtout là-dessus. Je dirais pas que ça m'a aidé sur la partie réseau, parce que finalement, ces boîtes-là, c'est pas les meilleures, en fait, sur ce type de réseau. Et en fait, généralement, c'est des comptes assez vitrines ou des OP, tu vois, qui sont un puissant fonds d'investissement média, mais qui finalement sont juste, on va dire, picousés à ce que tu mets en sponsor derrière, quoi. Donc, c'est pas forcément là où ça s'est construit, c'est plus en fait dans la consommation personnelle des réseaux sociaux, en fait, où tu commences à voir aussi ce qui t'intéresse, ce qui fonctionne, les tendances. C'est l'arrivée des nouvelles personnes dans l'équipe, hein, avec des gens qui ont dès le démarrage permis de structurer aussi la ligne éditoriale, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait pas faire. Et il y a des trucs qui ont été assez clairs dès le début. Alors, ça me fait plaisir quand tu dis que le compte, il est plutôt bien tenu et dans les tendances, mais on a aussi un leitmotiv qui est de se dire, en fait, on n'est pas là pour faire un compte vitrine, on est là pour intéresser les gens. Donc, on essaie de faire un truc qui est plutôt joli. La clé du truc, c'est de se dire déjà, qu'est-ce qu'on a envie de raconter qui est intéressant.
Oui, et puis moi, quand je disais ça, c'était aussi dans le sens, vous utilisez les codes d'Insta aujourd'hui, tu vois, vous utilisez les différents formats, vous utilisez autant de la vidéo que du réel, que des messages d'accroche, que des carousels, vous éduquez, et en fait, c'est ça qui est hyper chouette. Je trouve que c'est un bon cas d'étude pour ceux qui se posent des questions sur leur compte Insta, qui sont en B2C, franchement, c'est hyper intéressant, en fait.
Je conseille en plus parce que du coup, les algorithmes, ils changent quand même souvent, tu vois, sur ces réseaux. Et en fait, utiliser les nouveaux types de contenus qui sont proposés par les plateformes, etc., c'est toujours des choses qui sont bien poussées au démarrage par les algorithmes. Donc, ça te permet aussi de prendre la vague au démarrage et d'être poussé par eux, leurs tests internes, si tu veux, de lancement de nouveaux projets.
Oui, bien sûr. Mais bon, il y a le savoir, je pense qu'il y a d'ailleurs plein de gens qui en soi en sont conscients, mais il y a aussi réussir à mettre en place et prendre le virage, tu vois. Là, ça demande de la réactivité de la part de l'équipe, quoi. Moi, j'ai des boîtes en tête qui sont encore sur une strate de 2019, tu vois, qui voient bien qu'ils sont personnellement consommateurs des réels, qu'ils n'en peuvent plus, mais ils n'arrivent pas, en fait, à faire le lien, tu vois ce que je veux dire, sur comment moi, je le fais pour la marque, en fait.
Écoute, je pense que les lauriers vont à l'équipe, pour le coup, qui est vraiment hyper sensible à ça et qui fait du contenu de grande qualité. Tu vois, on a les trois personnes qui sont là-dessus, à la fois sur la partie graphisme, ligne édito et activation de tout ça et mise en musique de tout ça. En fait, bon, bah, ça fonctionne bien et du coup, c'est à elles que reviennent les lauriers, pas forcément à moi pour le coup.
Ben voilà, on leur envoie les lauriers aussi. Alors.
Je leur donne du temps et mon image quand ils ont besoin, mais du coup, c'est vraiment eux qui sont la source de tout ça.
Et du coup, aujourd'hui, sur votre partie vente, concrètement, c'est quoi un peu la répartition ? Parce que vous êtes vendu chez certains commerçants, chez certains commerces, hein, chez certains supermarchés, vous vendez aussi en ligne. Comment ça se répartit un petit peu et c'est quoi les axes de croissance que vous visez en tant que marque Impact ?
Nous, on a vraiment commencé en ligne. Donc, en fait, dès le démarrage sur notre site lespetitsbidons.fr, on propose toujours d'ailleurs des achats ponctuels sur un e-shop classique et aussi des options d'abonnement sans engagement avec des prix du coup un peu plus intéressants. Le site internet a vraiment et est toujours le moteur de la croissance et du chiffre d'affaires de la marque. Et depuis quelques mois, l'année dernière, on a commencé à se développer sur la partie magasin parce qu'on est rentré dans la distribution spécialisée bio et chez d'autres acteurs aussi, des épiceries fines, des enseignes aussi de bricolage. Et en fait, en début d'année, on avait été beaucoup sollicité par la grande distribution depuis pas mal de mois. Et on s'est dit que on était prêt et que ça rentrait aussi dans la mission qu'on se donnait, c'est-à-dire d'être présent là où les consommateurs le sont le plus et de pouvoir leur apporter des solutions plus propres que ce qui existe dans ce rayon-là. Et donc on a pris la décision d'arriver en grande surface depuis le début de l'année et du coup ça s'est pas mal accéléré puisqu'on est rentré chez Monoprix en janvier, ensuite chez Cora et là on vient d'arriver au début juin, on est arrivé chez Carrefour donc ça avance très très vite.
Et du coup tout ça à 10.
Et tout ça à 10, ouais. Alors, pareil. D'avoir une équipe commerciale et logistique qui fait un travail de dingue aussi pour que on arrive à suivre cette mise en place là qui est une sacrée aventure aussi.
Tu m'étonnes. Et du coup, c'est intéressant de. Tu disais que la grande distribution, vous faisiez des appels du pied en fait et que jusque là, vous aviez décidé de couper. Donc c'est-à-dire qu'ils vous avaient déjà repéré.
Oui.
Mais vous ne donniez pas suite parce que vous ne vous sentiez pas prêt à y aller, parce que c'est intéressant.
Ouais, mais il y a deux choses. Il y a effectivement, quand tu y vas, il faut être prêt, donc il faut avoir les reins, tu vois, en termes de logistique, en termes d'équipe, etc. Donc ça, c'est le premier truc pour lequel on n'y est pas allé tout de suite. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'avais la conviction que, en fait, pour y aller et pour avoir une discussion sereine avec la grande distribution, il y avait aussi un enjeu de créer la marque la plus forte et la plus désirable possible. Parce qu'en fait, ça te change aussi la façon dont tu discutes, c'est-à-dire que tu arrives avec une marque où tu as une grosse communauté derrière, tu as déjà éprouvé tes produits, ils ont déjà été testés, les gens ils sont fidèles. Enfin, tu as beaucoup plus d'infos sur ta marque. Et en fait, si tu y vas dès le démarrage, je trouve que tu prends quand même un risque parce que du coup, tout n'est pas encore...
Oui, le rapport de force n'est pas assez en ta faveur, quoi.
Ouais, en fait, alors le rapport de force, il n'est pas chez nous, hein, mais
ouais.
On va pas se mentir.
Apporte un peu de poids.
Disons que les discussions en fait sont aussi plus saines, c'est-à-dire que on sait aussi ce qu'on apporte en termes de modernité d'image, de potentiellement de clientèle, de trafic. Et en fait, on a des gens derrière qui attendent les produits en magasin, qui n'ont jamais commandé sur le site, et en fait, c'est une réserve aussi pour eux de potentiels clients qui peuvent aller chercher. Donc c'est ça qui est intéressant aussi.
Et justement, est-ce qu'on peut rester, parce que c'était vraiment notre sujet pour continuer cet échange, c'était la sensibilisation et même plus largement la marque, comment on fait pour faire du bruit autour du sujet de la lessive et de son impact ? On en a déjà un petit peu parlé là jusqu'à maintenant, mais c'est quoi ? Est-ce que tu as des grandes lignes qui expliquent que vous avez réussi à le faire ? Est-ce que c'est dans les éléments de discours ? Est-ce que c'est que vous êtes allé... loin dans votre militantisme. Enfin, tu vois, est-ce que tu as un peu des clés comme ça ?
Il y avait une question de marque, de direction artistique, en fait, c'était de créer aussi une lessive qui te donne envie, dont tu n'es pas honte, que tu sois contente de montrer, que tu sois contente de recommander aussi à tes amis, tes proches, ta famille. Donc ça, c'était le premier point qui était vraiment sur la partie, on va dire, positionnement de marque qu'on a beaucoup travaillé. La deuxième chose, c'était aussi... Sur le discours, c'est-à-dire que on n'est pas là juste pour parler des valeurs ajoutées produits, on est là pour parler de l'écologie au sens large, de l'impact de la détergence sur l'environnement, sur la santé, en fait de vraiment prendre des sujets finalement d'actu qui sont bien plus hauts que ceux de la marque et du coup de les vulgariser et de les apporter en version finalement snack content qui sont faits pour les réseaux sociaux pour qu'on puisse s'informer. Et en fait, nous, c'est toujours un peu, enfin, tu vois, un peu ce qui s'est passé au début, il y a un truc qui s'est passé au début de la création des petits bidons et qui m'a vachement marqué. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à dire à ma famille ou à mes potes, je vais lancer une marque de lessive écologique et engagée, tout le monde m'a dit, en fait, ça existe déjà. Et donc, je me suis dit, oui, alors, effectivement, tu as un beau greenwashing qui régit le marché. En revanche, dans la lessive que tu dois utiliser, tu as des dérivés de pétrole et des dérivés d'huile de palme, très certainement des perturbateurs endocriniens. Donc après tu peux continuer et tu ne le sauras pas parce qu'en plus tu n'as pas accès à ta liste d'ingrédients. Et donc les gens te disent oui, non, mais moi ça me va très bien. Et puis en fait, 2-3 semaines après, ils te disent alors du coup, toi c'est fréquent parce qu'en fait ce qu'on s'était dit, ça m'a quand même un peu marqué. Du coup, j'attends que les produits sortent et tout. Et en fait, si tu veux, c'est un peu ça aussi qui moi m'a, conduit vers ce type de communication, c'est-à-dire de se dire, tu fais de la pédagogie, peut-être que tu as l'impression que les gens ne sont pas réactifs, mais tu commences à mettre une petite graine en disant, les autres, les lessiviers conventionnels, se foutent un peu de ta gueule, quoi.
Et puis, je pense que oui, ça résonne aussi beaucoup sur la méfiance. C'est intéressant ce que tu dis sur la méfiance et le fait de, et vraiment cette notion de prise de conscience de, enfin, je pense que c'est une réaction aussi que vous avez suscité de « Ah, mais je ne savais pas du tout
ouais, !» exactement.
Moi, je pensais qu'il y avait écrit écologique et du coup, c'était bon. Donc, il y a un peu le « Ah mince, attends, là, je remets tout à plat et ok, je peux te faire confiance qu'à toi. »
Et le truc, c'est que ce n'est pas fini. Tu vois, on voit encore des marques de lessive se lancer et on est là « Putain, mais ce n'est pas possible !» quoi. En fait, à chaque fois que tu regardes, tu te dis « Mais comment tu peux avoir le culot de lancer ça avec... avec un tel greenwashing derrière. Et c'est pour ça qu'on se bat, nous, sur la partie transparence des listes d'ingrédients, parce qu'en fait, la clé, elle est là, en fait. À partir du moment où il y aura tous les ingrédients qui seront notés sur les produits, je peux te dire qu'en fait, ça fera radicalement changer les gens en termes de consommation, quoi.
Oui, bien sûr. Et après, il y a aussi, parce que j'imagine, tu parlais de ces personnes dans ta famille, par exemple, tout à l'heure. J'imagine qu'en fait, le soir même ou le lendemain, ils sont allés faire un tour sur notre ami Google et qu'ils ont regardé perturbateurs endocriniens, lessives ou je sais pas quoi, qu'ils ont dû trouver des articles et que ça a aussi fait son chemin.
Il n'y avait pas grand-chose, en fait. On a un peu...
C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que vous avez créé un peu des contenus pour vulgariser en, je sais pas, sur YouTube, en SEO? Est-ce que vous avez aussi travaillé là-dessus?
On l'a travaillé effectivement en SEO, mais si tu veux, on a surtout, en fait, ça infuse toutes nos prises de parole, c'est-à-dire que ce soit sur les emballages des produits, que ce soit en fait sur les communications qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, sur les vidéos qu'on tourne, sur, tu vois, même là, le fait de prendre la parole dans un podcast, tu vois, pour en parler, en fait, tu continues en fait à alerter les gens en fait sur ces sujets-là, et c'est vraiment de se dire, à chaque fois qu'on a l'occasion d'avoir des oreilles nouvelles qui puissent nous écouter ou des yeux pour nous lire, tu vois, c'est de se dire, comment tu reviens aussi à tes valeurs de base qui font que tu as lancé ce projet-là et qui sont en fait le driver de la création de cette marque.
Et ça, vous avez une plateforme de marque, quelque chose où c'est ancré et où toute personne qui rejoint l'équipe peut adhérer et peut se l'approprier?
Alors oui, ça se fait aussi c'est des trucs que tu apprends au fur et à mesure que tu arrives dans l'équipe. Mais effectivement, ouais, on a un truc de quand les gens arrivent, pour justement leur expliquer c'est quoi nos différences avec le marché, c'est quoi l'état du marché, c'est quoi notre mission, c'est quoi pourquoi ça s'incarne. Tu vois, la signature de la marque, c'est laver sans tout salir, mais qu'est-ce que tu vas dire derrière, tu vois, en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et pourquoi c'est pas du greenwashing, et pourquoi en fait on a cette transparence là. Et puis après, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais pour moi le plus gros, l'une des plus grandes valeurs, tu vois, qu'on a par rapport au reste du marché, c'est qu'en fait la démarche, elle est profondément sincère en fait dans ce qu'on a créé.
Oui.
Et ça change radicalement les choses. C'est-à-dire que, tu vois, je vais pas te dire j'ai voulu créer une marque de lessive parce que en fait le marché de la lessive en France, c'est 2 milliards d'euros et qu'en fait je pense qu'on peut le disrupter et devenir une licorne, tu vois.
Ouais.
C'est pas ça, c'est en fait les lessives étaient dégueu, je me suis dit que je pouvais en faire une mieux et que ça pouvait intéresser des gens et puis on verra jusqu'où ça va.
Oui, ça change radicalement et ça en plus, ça te ramène à vraiment une échelle humaine et ça permet de s'identifier carrément en se disant carrément, j'ai envie de le suivre, quoi.
En tout cas, le but, c'est pas de se dire ah tiens, j'ai envie de le suivre, mais c'est de se dire en fait, la démarche, elle est profondément engagée et sincère, quoi.
Ouais, bien sûr. Hyper intéressant. Écoute, on a fait un bon tour, on a parlé de l'impact un peu pendant tout ce tour-là. Juste un petit mot peut-être sur l'entreprise elle-même. Est-ce que vous avez fait des choix aussi au niveau soit des statuts, soit au niveau d'agrément, de rejoindre des mouvements pour aussi traduire votre impact?
Ouais, alors du coup, tous nos produits sont labellisés avec celui qui est le plus drastique pour l'instant, qui est EcoCert, sur la détergence, en sachant que on est bien plus exigeant en termes de formulation que leurs recommandations, puisqu'on a vraiment notre cahier des charges en interne et avec une blacklist d'ingrédients assez incroyable.
Oui.
Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie du cœur de nos engagements. Et l'idée, c'est que bah, finalement, la marque devienne entre guillemets, un label aussi du bien consommé. Et après, du coup, on est aussi partenaire du WWF, notamment grâce à la qualité de la formulation de nos produits, et en étant la seule marque de détergence qui est adoubée par leur club d'entreprise pour la planète.
Ok, génial. Eh bien, écoute, il me reste mes dernières petites questions à te poser. La première d'entre elles, c'est est-ce qu'il y a un moment où tu as vu que l'entreprise, elle aurait pu capoter?
Ah ouais, mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, c'est le cœur de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, en fait, c'est fait de, enfin, c'est des montagnes russes. En fait, tu as des moments où tu as l'impression que tout va bien, et c'est dans ces moments-là où il faut se méfier. Et puis, en fait, des moments où c'est compliqué, où c'est dur, où, en fait, bah, tu te rends compte que la trésorerie, elle est en train de diminuer, que du coup, en fait, tu as un truc où tu avais mis beaucoup d'espoir et en fait qui fonctionne pas. Enfin, c'est ça. Moi, je suis pas du tout un vendeur de rêve, tu vois. Moi, j'ai
Ouais.
l'impression qu'en fait, tout ce qu'on voit, tu vois, on travaille beaucoup sur LinkedIn, mais tout ce qu'on peut voir, enfin, tout est léché, chiadé et tout. Tu as l'impression qu'en fait, c'est un long fleuve tranquille et qu'en fait, c'est fait que de succès, de levée de fonds et de machin. Oui, tu as des succès, tu as des beaux moments, mais en fait, c'est l'aventure entrepreneuriale, c'est un truc qui est hyper difficile et où du coup, faut s'accrocher, quoi.
Ouais,
Donc,
et surfer. Il faut
ouais,
réussir
ouais.
à être en haut de la vague et en bas aussi, quoi.
Ouais, exactement. Et franchement, je mentirais jamais sur le fait que, bah ouais, t'as des moments où en fait c'est sacrément difficile, et après t'as des moments où c'est sacrément excitant et sacrément incroyable comme aventure, quoi.
Ouais, j'imagine. Est-ce que vous avez un gros défi marketing à venir là?
Bah écoute, nous on continue un peu sur nos bases, c'est-à-dire qu'on s'est pas posé, tu vois, on s'est pas dit, attends, il y a un gros défi. L'enjeu maintenant, nous, c'est de se dire comment on arrive à accentuer bah, la notoriété de la marque qui a déjà bien
Oui.
grandi. Donc on est hyper hyper fiers de ça. Mais comment on continue? Parce qu'en fait, arriver en magasin, tu te bats avec des géants qui mettent des centaines de millions d'euros sur la table en com. Et en pub. Donc en fait, comment de façon maligne et tactique tu arrives à finalement être connu du plus grand nombre. Donc ça, c'est un peu nos questions en ce moment.
C'est les réflexions. Vous n'avez pas forcément encore toutes les solutions, mais
On en a
ça
quelques-unes,
commence par les questions.
mais je te laisserai les découvrir.
Oui, c'est ça. Il va falloir vous suivre sur les. C'est prévu, en tous les cas.
C'est ça, j'invite tout le monde à nous suivre du coup pour découvrir les solutions.
Très bien. Est-ce que tu as un petit conseil aux auditeurs pour cet aspect marketing com sur une marque à impact ou sur une marque qui va vers là, justement? Tu as beaucoup parlé de nous, on ne fait pas de greenwashing et aussi parce que le message, il est authentique. Donc, par expérience, pour écouter beaucoup justement de tout cet écosystème, il y a beaucoup la peur du greenwashing, même chez ceux qui partent intrinsèquement de valeurs fondamentales, quoi. Est-ce que tu as un conseil pour eux?
Ouais, déjà, un, c'est, tu te feras toujours, en fait, tu te feras toujours tacler par quelqu'un qui pense que sa vision des choses est mieux. Donc, déjà, c'est de laisser ces trucs-là et c'est de continuer à avancer. Enfin, c'est un peu le même esprit que, tu sais, quand tu vas dans un dîner ou que tu déjeunes avec des potes et que tu dis, ah, bah, tiens, moi, j'ai fait ça, parce que je pense que c'est mieux. Et t'as toujours quelqu'un qui dit, ah, non, moi, j'ai lu que c'était pas bien. Et du coup, ça te bloque dans la démarche, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est de pas s'arrêter à ça, et de continuer à avancer, si on est sûr en fait de ses décisions. Et surtout, moi, ce que je trouve le plus important, c'est de rester droit dans ses bottes par rapport à ses engagements, parce que tout le long d'un projet entrepreneurial, tu seras tenté en fait de prendre des chemins de traverse pour aller plus vite, pour gagner du temps, pour gagner plus d'argent. Et en fait, moi, je suis à 100% convaincu que c'est en restant droit dans ses bottes, sur ses engagements, ses valeurs, qu'en fait, tu crées une marque qui est forte, une marque dont les gens ont confiance, une marque qui est sincère, une marque qui est transparente. Et c'est ça qui fait la puissance et la force de la marque in fine.
Hyper intéressant, oui, c'est clair. De tous les épisodes qu'on a pu enregistrer jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça se retrouve beaucoup. C'est très juste ce que tu dis. le fait
Ouais,
de
bah
s'ouvrir dans ses bottes.
en fait, c'est ça qui fait l'heure de la marque. C'est, en fait, demain, de la même façon qu'en fait, on a la chance d'avoir une communauté très engagée qui nous fait confiance, si demain on fait de la merde, bah en fait, ça sera tout aussi rapide que ça s'est créé, quoi.
Oui, exactement, surtout
Donc
avec
en
les
fait,
réseaux.
en fait, tu as aussi un devoir de suivre tes engagements et en fait, et si tu as des décisions à prendre, d'être transparent. Tu vois, nous, ça nous arrive en fait parfois de prendre la parole et d'expliquer, bah ouais, là en fait, on n'est pas totalement satisfait d'un produit, du coup, on l'a refait et on l'a refait pour ça et du coup, il est comme ça. Mais en fait, les gens, ils comprennent, tu vois. Ce que les
Oui.
gens comprennent pas, c'est quand tu essaies de leur faire à l'envers.
Oui, c'est clair, tout simplement. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire d'une conférence, d'une campagne, d'une boîte que tu suis et dont tu as bien aimé une campagne par exemple de sensibilisation, un livre, quelque chose sur justement ces sujets marketing et impact, comment réussir
Écoute, ouais,
à
il y
allier
a
ça?
la boîte qui m'inspire le plus parce que je trouve que c'est vraiment dément la façon dont ils font les choses, c'est Loom. En fait, je
Ouais.
trouve que la démarche, elle est tellement radicalement différente de ce que tu peux voir que je trouve ça hyper inspirant en termes de transparence, en termes de parti pris, en termes d'engagement et tout. C'est vraiment, moi, une démarche qui m'inspire le plus par rapport à tout ce qu'ils font et ce qu'ils communiquent aussi. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. C'est vraiment, c'est tranché, c'est cinglant et c'est super bien fait.
Carrément, ils ont une plume. Génial pour justement partager tout ça. Et c'était un des premiers épisodes que j'avais enregistré il y a
Bah,
deux
t'as
ans,
bien fait
trois
parce
ans,
que
je
écoute,
crois. Julia Fort. Ouais, elle est top. Donc
elle est
n'hésitez pas à
exceptionnelle.
aller écouter parce qu'elle est vraiment, vraiment top. Et puis elle a même fait un TEDx sur l'avenir de. Et si les entreprises de demain qu'on admirait, ce n'était pas justement les licornes, c'était
Ouais.
le boucher qui ose être. Épanouie à sa taille, en fait. Enfin, il y a
Ouais.
plein de choses hyper intéressantes qu'elle raconte
Non, non, mais je trouve
qui
que
posent beaucoup de questions.
ouais, ça donne un autre prisme en fait sur la lecture du succès et de la réussite.
Exactement.
Et que je trouve super inspirant.
Ah bah carrément, je te rejoins. Donc n'hésitez pas à aller écouter et puis surtout à les suivre parce que c'est vrai que c'est vraiment chouette à voir voilà, au quotidien, quoi. Et ben, c'est un acteur que tu nous recommandes. Je te propose d'en recommander un dernier pour terminer cet échange. Est-ce qu'il y aurait un autre acteur que tu me recommanderais pour le coup pour venir parler dans ce podcast de ces sujets-là?
Alors ouais, moi je te recommande, il y a deux boîtes que je trouve top. Il y a une boîte qui s'appelle Joe, qui fait de tout sur la partie culotte menstruelle, etc. Qui est vraiment super engagée et qui a une com qui est dingue. Et pareil sur la transparence, qui se bat aussi pour bah, remettre la transparence sur ce marché des protections hygiéniques.
Ok.
Vraiment, et je trouve qu'il y a une super bonne alliance entre la partie engagement et com et modernité. Donc ça, c'est vraiment chouette.
Trop bien.
Et une autre boîte qui fait de l'alimentation chat, notamment, qui s'appelle Ziggy, qui a une com qui est super décalée, qui est très engagée aussi et qui arrive, pour le coup, à bien manier aussi humour et engagement.
Ok, génial. Eh ben, écoute, tu vois, je connais Tomojo, dont on nous parle beaucoup.
Ouais.
À plusieurs reprises, au point que je les ai contactés là il n'y a pas longtemps et qu'on va enregistrer, mais je ne connaissais pas celle-là, j'irai regarder.
Vas-y, va faire un tour.
Merci beaucoup pour tous ces partages. Hâte de pouvoir diffuser ça pour que ça puisse être écouté par les auditeurs du podcast.
Ben, un grand merci à toi pour ce moment et puis pour toutes ces questions, c'était un super échange.
Trop bien, je te dis à bientôt.
À bientôt.
Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite!